my feet,
stomp my feet
to the rising beat,
to the rising beat.
I'll wash my sorrow,
wash my sorrow.
Let the tears run dry,
tears run dry.
Break the chains,
break the chains.
Wings open wide,
wings open wide.
I can feel them voices,
feel them voices
within me rise,
within me rise.
Oh, spirits of the river, spirits of the sky, walk beside me, never say goodbye.
La voix des municipales. Les 15 et 22 mars 2026, c'est les élections municipales à Rouen. La radio HDR reçoit les candidats à cette élection autour des thèmes du logement, de la jeunesse, des écoles, du monde associatif et de la tranquillité publique. La voix des municipales, c'est tous les jeudis à 18h jusqu'aux élections sur les ondes du mix des cultures. La voix des municipales. Amaury Renaud, nouveau parti anticapitaliste.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission La Voix des Municipales. Ravi de vous retrouver pour cette émission de 18h à 19h comme chaque jeudi jusqu'à l'élection des municipales. Ravi de vous recevoir. Vous connaissez peut-être le principe de l'émission. On reçoit un candidat et une candidate pour l'interroger sur son programme en fonction des thématiques. Et avec vous aujourd'hui, Naïm, tu as Amaury Renaud.
Exactement, Inès. Aujourd'hui, on reçoit Amaury Renaud du parti Nouvelle Anticapitaliste, le NPA, pour en faire plus rapide. Bonjour Amaury.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter ce qu'est le NPA et vous présenter par la même occasion ?
Oui, alors moi je suis Amaury Renaud, j'ai 23 ans et je suis étudiant en architecture et je suis donc candidat au municipal pour le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, donc une organisation communiste révolutionnaire qui défend la lutte des travailleuses et des travailleurs et des jeunes pour renverser la société capitaliste.
Et pourquoi vous présentez justement aux élections municipales à 23 ans ? Quelle idée de faire de la politique ?
Alors, quelle idée de faire de la politique, je sais pas, je pense qu'il y en a qui aimeraient bien justement plutôt qu'on n'en fasse pas et qu'en fait les jeunes et les travailleurs ils se saisissent pas de leur avenir et des questions de société. Bon bah ça c'est évidemment une logique qu'on conteste. Pourquoi un jeune comme moi fait de la politique? Je pense que il y a qu'à regarder un peu le monde dans lequel on vit pour se rendre compte de qu'est-ce qui pousse à faire ça. En fait voilà, quand on est jeune, on se retrouve confronté à plusieurs choix pour notre avenir en général, entre aller travailler dans un taf exploité pour un salaire qui nous permet même pas de vivre, ou alors se retrouver au chômage en fait, ou éventuellement maintenant la troisième voie qui est celle de partir à la guerre pour aller tuer d'autres jeunes dans d'autres pays. Bon bah ça, c'est vraiment pas des avenirs qui sont possibles, et donc il y a une nécessité absolue de lutter contre ça, et donc je pense que c'est ça qui explique en fait que je suis là aujourd'hui.
Pour vous, le fait de se présenter, c'est bien sûr utile, mais là, on va aborder des thèmes un peu particuliers parce que c'est pas des thèmes courants dans une interview dite politique. On va commencer par le premier thème qui s'appelle la vie associative.
HDR.
Quelles sont vos propositions pour la vie associative ?
Bon, alors c'est un peu compliqué comme ça d'avoir des propositions qui seraient très concrètes, très chiffrées, etc. pour la vie associative. Évidemment, le tissu associatif, il est énorme, hein, rien qu'à Rouen. Il y a quand même un peu plus de 4000 associations dans tout un tas de domaines, culture, santé, sport, la radio, comme ici. Bon, des associations qui quand même ont, j'ai l'impression, de plus en plus de mal à vivre, hein. On le voit bien, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'alimenter financièrement, humainement, ce tissu associatif dont pourtant on a besoin. Un des exemples, y compris dans la politique actuelle de la ville, c'est qu'aujourd'hui, il y a des maisons, des associations, notamment une masse dans le quartier de Pasteur, qui va bientôt fermer, a priori, si le projet de la mairie continue tel qu'il est, alors pour être remplacé par une école dont, évidemment, on a besoin. Enfin, c'est logique qu'il y ait besoin de nouvelles écoles primaires et maternelles, mais en fait, quel avenir pour ces associations qui sont toujours plus précaires? Elles vont probablement être relogées, mais en réalité, on ne sait pas exactement où et tout n'est pas encore fixé. Donc, c'est important qu'il y ait des choses qui soient faites qui soit faite pour ça.
Pour vous, quelles sont... j'ai vu que il y a des critiques au niveau des subventions actuelles. Pourquoi ?
En fait, dans la logique actuelle, il y a des coupes qui sont organisées à tous les niveaux, en fait, dans les subventions qui sont faites aux associations, à la culture, au sport. Donc, rien qu'à voir au niveau de l'État, en fait, c'est des budgets qui coupent de plus en plus dans ce type de subventions pour favoriser des subventions qui seraient faites plutôt à l'armée, à la défense, etc. Donc, une logique qui est complètement inverse à celle du maintien du tissu associatif. Tissu associatif qui, d'ailleurs, lui-même, en général, elle est là un peu pour pallier un grand nombre de manques de l'État. Quand on voit le nombre de personnes qui sont, par exemple, obligées d'aller se nourrir au Resto du Cœur ou autre, parce qu'en fait, les salaires ne suivent pas, parce que l'inflation est énorme et ne permet plus de s'acheter à manger. Bon, on voit bien le serpent qui se mord la queue qu'il y a derrière. Derrière, il y a tout un tas de militants associatifs qui se battent pour essayer de faire tourner tout ça, mais ils le font un peu contre vents et marées. Et c'est important de les soutenir là-dedans.
Dernière question sur ce thème, comment garantir la liberté des associations ?
Non mais
la liberté, enfin, ouais, je vais peut-être développer
un peu pas, sur la liberté des associations.
C'est-à-dire qu'en fait, comment justement permettre à toute association, on va dire culturelle, sportive, aidante, venant aide aux migrants, d'être toujours, on va dire, accessible à Rouen dans les propositions que vous, en tant que maire de Rouen, vous allez pouvoir proposer.
En fait, évidemment, on n'est pas forcément là, nous, pour faire tout un tas de propositions extrêmement précises pour chaque association, etc., parce qu'on ne défend pas forcément un programme de gestion de la mairie. En revanche, on pense que c'est une nécessité absolue que toutes ces associations elles aient accès à des locaux qui soient gratuits ou voilà, disponibles de façon plus ou moins permanente, qu'elles ne soient pas étriquées à 40 dans une maison des associations, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, qu'elles ne soient pas coupées de toutes les aides qui puissent exister pour les faire vivre, mais qu'elles ne soient pas aussi obligées de pallier à tout un tas de manques. Une autre nécessité pour que le tissu associatif y continue d'exister, en fait, c'est que les gens, ils aient mine de rien le temps de faire vivre ce tissu associatif. Or, en fait, quand les gens, ils sont obligés de bosser 40 heures par semaine au travail et en fait d'enchaîner des heures sup pour pouvoir continuer de se payer à peine de quoi manger à la fin du mois, eh ben, c'est pas possible en fait de faire vivre ce genre de tissu associatif. Et donc ça fait partie évidemment des choses pour lesquelles nous, on va lutter.
Passons maintenant au logement et à la parentalité. HTR. Comment appliquer la réquisition des logements vides ?
Ouais, je vois que vous avez bien ciblé les questions juste avant, parce qu'effectivement, la réquisition des logements vides, pour nous, c'est quelque chose qui a énormément de sens pour rappeler un petit peu quand même le principe. C'est que si on prend l'exemple rien qu'à Rouen, il y a plus de 7 400, selon les derniers chiffres de l'INSEE, logements vides, donc qui sont inoccupés depuis au moins un an, ce qui est quand même énorme, hein, surtout quand on considère que il y aurait environ un peu plus de 200 personnes qui vivraient complètement à la rue, bon, et à laquelle il faut ajouter tout un tas de personnes qui sont sans domicile fixe ou qui sont de façon temporaire sans logement. On peut penser notamment, par exemple, aux mineurs non accompagnés qui ont campé devant la préfecture quand même pendant tout l'été pour avoir le droit à un hébergement. Donc oui, la réquisition des logements, c'est évidemment quelque chose qu'on défend. C'est un droit qu'ont les maires dans les villes de France, normalement, de réquisitionner les logements qui sont laissés vacants pour permettre justement leur occupation par les personnes qui n'en ont pas. C'est un droit qui n'est pratiquement jamais appliqué, en fait, quasiment aucune mairie ne le fait, et y compris pas la mairie actuelle de Rouen, dirigée par le Parti Socialiste, elle n'applique pas cette réquisition des logements. Donc c'est évident que nous, on lutte pour que ce soit fait et que bon, nous n'avons pas prétention à gérer la mairie de Rouen, mais c'est évident que si on était maire de Rouen, nous réquisitionnerions tous les logements laissés vacants. Le problème, c'est que ça suppose déjà un peu de courage politique, c'est-à-dire celui de s'opposer en fait au droit des spéculateurs immobiliers de posséder des centaines, parce que quand même on parle de gens qui possèdent à eux-mêmes des centaines de logements qui louent à des étudiants précaires pour des sommes colossales ou qui louent à des mères de famille, enfin vous voyez, qui ont à peine de quoi bouffer, en fait pour se faire énormément de fric là-dessus. Donc ça, ça nécessite de s'opposer à leur droit de posséder ce type de logement. Ça nécessite aussi au droit de s'opposer, enfin au fait de s'opposer à ceux qui ont le droit de posséder 2, 3, 4 résidences secondaires. Donc ça, nous, on pense qu'il faut le faire. Évidemment, si on saisissait tous ces logements, ce serait pas non plus la fin du problème. Le maire ne résoudra pas tous les problèmes du logement, notamment parce que la saisie de ces logements serait probablement brisée par les préfectures ou par d'autres forces politiques voilà, qui voudraient empêcher que ça ait lieu. Et ça, ça imposerait qu'il y ait une lutte d'ensemble des travailleurs et des gens qui sont justement privés de logements pour exiger, pour maintenir cette réquisition des logements qui serait effective. Et ça, ça va nécessiter un mouvement d'ensemble.
Vous savez que dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de logements sociaux. Comment inciter les bailleurs à mieux considérer leurs locataires et à effectuer les travaux pour avoir une meilleure dignité humaine?
Oui, alors c'est clair que dans les banlieues, il y a beaucoup de logements sociaux, dont beaucoup sont quand même insalubres ou à la limite de l'insalubrité, qui sont aussi loués pour des prix qui sont en réalité très élevés. Les logements sociaux sont souvent aussi chers en fait que des logements pas sociaux. Il y a aussi beaucoup de scandales qui sortent régulièrement quand même dans la presse de d'accords un peu obscurs entre les bailleurs sociaux, de choses comme ça qui font que quand même le logement social est un gros qu'on a en France. Le fait qu'aussi un bon nombre de logements sociaux appartiennent non plus à des bailleurs qui sont publics et qui sont sociaux, on pourrait dire, mais qui en fait sont des bailleurs privés qui font du profit en fait sur la gestion de ce parc immobilier. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est scandaleux. Donc c'est sûr qu'une des premières choses à mettre en avant, c'est que ça devrait être impossible de réaliser des profits sur ce type de choses. Mais évidemment qu'il faudrait une politique d'ampleur de réhabilitation du logement social et du logement en réalité pas que social, de tous les gens qui vivent en fait dans des logements qui sont absolument indécents. Mais que ça, pour l'exiger, encore une fois, ça nécessite de remettre en cause comme ça ce droit fondamental qu'ont les spéculateurs immobiliers de posséder des parcs de logements absolument gigantesques, d'en faire en fait ce qu'ils veulent, de fixer eux-mêmes les loyers, parce que c'est aussi ça. Alors dans le logement social, bien sûr, c'est encadré, mais c'est encadré toujours dans des marges qui sont trop grandes. Par ailleurs, les conditions d'accès à un logement social sont quand même assez restrictives. Par exemple, les étudiants n'ont pas accès à des logements sociaux. Bon, voilà, ça représente une certaine catégorie de la population, mais forcément, ça complexifie ça. Et donc, c'est clair qu'il faudrait, encore une fois, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de « si nous, on est élus, si vous votez bien, vous aurez des logements sociaux pour toutes et tous qui seront super beaux ». Il va falloir une lutte d'ensemble pour exiger ce droit au logement auquel on se bat, enfin, pour lequel on se bat au quotidien.
Et pour vous, parce qu'on est aussi sur le thème de la parentalité, comment mieux accompagner les familles monoparentales dans les quartiers ou même les familles tout court en général?
L'accompagnement des familles, oui, a fortiori des familles monoparentales, c'est vrai que c'est une vraie question. Une des questions principales, c'est la garde des enfants, en fait, qui est le problème premier des familles et forcément des familles monoparentales. Aujourd'hui, notamment, les crèches sont devenues une manne financière pour tout un tas de capitalistes qui possèdent des sociétés, des associations de garde d'enfants qui coûtent une fortune pour les parents, pour y placer leurs enfants, tout en sachant que rien qu'y avoir accès, en fait, c'est une difficulté. Il y a que 80% de places disponibles par rapport aux vrais besoins qu'il y aurait, et encore il y en a que 40% qui le sont dans des structures publiques. Donc en fait, pour accéder au placement, enfin à la garde pardon d'un enfant, c'est une vraie difficulté. Et encore une fois, il faut aussi remettre en cause le droit de capitaliste à posséder ce type d'infrastructure qui devrait être sociale. L'autre problème aussi qui va un peu avec ça, c'est le fond de pourquoi c'est nécessaire en fait de faire garder son enfant. Parce qu'en fait, les gens font garder leur enfant pourquoi? Pour pouvoir aller bosser dans un boulot qui ne leur permet même pas de quoi vivre et même pas de quoi payer la garde en fait de leur enfant. Vous voyez, le cercle est complètement vicieux, et la raison même qui pousse à garder son enfant elle-même, elle est vicieuse en fait. C'est pour travailler, pour se faire exploiter, pour enrichir un patron qui va en récupérer le beurre et l'argent du beurre en nous faisant repayer le fait de faire garder son enfant pour aller travailler pour lui. Vous voyez qu'on ne peut pas s'en sortir en fait si on ne combat pas cette société frontalement pour s'opposer à ça.
Si je comprends bien, l'idée c'est de dire voilà, quand on veut accompagner des familles, qu'elles soient monoparentales ou les familles en général, il faut savoir aussi aller au fond du sujet en parlant aussi des enfants à charge, de la façon dont les enfants sont gérés par les crèches et surtout de la façon où des fois, pour trouver une place en crèche, c'est la bataille en fait. On n'arrive pas forcément à trouver des classes en crèche, même municipales. Pourquoi pas proposer, moi je ne sais pas, investir justement dans le domaine de la petite enfance, mieux former les accompagnements d'enfants.
Oui, complètement, mais surtout quand on voit aussi le nombre de scandales qu'il y a quand même régulièrement dans ce type de structure, des fois voilà des scandales d'enfants qui seraient laissés sans surveillance ou d'agressions qui peuvent avoir lieu sur des enfants, etc. Ça, c'est clair que ça nécessite des politiques d'ensemble aussi, parce qu'en fait les travailleurs de ces structures, ils sont soumis eux-mêmes à des conditions de travail qui sont fixées par la nécessité de rentabilité. En fait, les propriétaires de ces structures, ils tentent de réduire au minimum possible quoi la main d'œuvre qui bosse là-bas, pour majorer leurs profits, etc. Et donc ça pousse à des conditions d'accueil des enfants qui sont juste en fait inadmissibles. Et donc on est obligé de faire garder son enfant tout en sachant qu'en fait il sera probablement gardé dans des conditions qui sont médiocres, malgré le fait que la plupart des gens qui bossent là-bas le font vraiment avec une passion et une détermination qui est assez impressionnante, mais qui en fait est forcément insuffisante vu qu'on leur demande de faire le travail de 5 personnes à eux tout seuls pour maximiser des profits. Donc ça, c'est clair que ça va nécessiter encore une fois en fait une lutte d'ensemble sur ce terrain-là pour demander une autre société, une société qui à la fois permet un accueil décent en fait des enfants à des tarifs qui seraient décents, mais aussi ne pas avoir forcément besoin toujours de faire garder ses enfants pour aller bosser en fait.
Et justement, vous me donnez entre guillemets la perche parfaite. Comment mieux accompagner les familles qui sont vraiment dans le besoin, qui sont en extrême difficulté?
Alors, j'imagine qu'on parle de familles qui sont dans l'extrême difficulté financière. Donc, il y a plusieurs choses. Alors, on peut penser évidemment à tout un tas de palliatifs qui sont l'accès évidemment à des crèches pas chères, à des logements sociaux, à des aides alimentaires diverses et variées, etc. Mais en réalité, déjà le premier point et celui le plus fondamental, j'ai envie de dire, pour lequel on se bat, c'est qu'en fait l'accès à toutes et tous, enfin pour toutes et tous, un travail. En fait, ça c'est quand même une des choses essentielles, c'est que il y a un taux de chômage qui est absolument considérable, et c'est évidemment la cause principale de la précarité de tout un tas de gens, c'est d'être privé d'emploi. Ce chômage, il est organisé par les capitalistes qui organisent la concurrence entre les travailleurs, entre ceux qui ont un taf et qui sont prêts à tout accepter pour le garder parce qu'ils veulent pas se retrouver dans la situation de ceux qui sont privés d'un travail. Ils voient bien, en fait, tout le monde qui travaille voit bien que pour les gens qui sont privés d'emploi, les fins de mois sont absolument impossibles à finir. Payer les factures, payer la bouffe, c'est pas possible. Et donc, n'a pas envie de se retrouver dans ces conditions. Ils sont prêts, du coup, à accepter un peu n'importe quoi de la part du patron. Et donc, les patrons ont vraiment cet intérêt à maintenir toute une partie de la population dans le chômage. Ça, il y a une lutte fondamentale pour l'accès à toutes et tous à un travail. Et bien sûr, ça va plus loin, un travail qui est payé décemment. En fait, nous, on le dit un peu souvent, il ne devrait pas y avoir un seul salaire en dessous de 2000 euros. En fait, quand on voit le prix de l'alimentation, le prix du logement, tous ces prix-là, un salaire en dessous de 2000 euros, en vrai, ça ne suffit pas pour vivre. Ça suffit à peine pour survivre. Et donc, il faut absolument une lutte qui aille dans ce sens-là, du travail pour toutes et tous et aucun salaire en dessous de 2000 euros.
Donc ça veut dire que vous, Amaury, maire de Rouen, demain avec votre équipe, vous augmentez les travailleurs de la municipalité?
Alors moi, maire de Rouen, demain bien sûr, faisons cette petite question.
Non mais
bien sûr.
J'exagère peut-être sur la question, mais c'est juste pour donner peut-être un peu une image à vos idées et puis vous pousser dérouler.
Bien sûr, ça a du sens. Et bien sûr que nous, maires de Rouen, on pousserait pour que les travailleurs dont on pourrait contrôler le salaire, ils aient les meilleurs salaires. Bon, en vérité, on contrôle pas grand-chose quand on est maire. Ça, il faut insister, y compris les salaires des fonctionnaires territoriaux. On les fixe pas forcément sur un bout de papier, même si on ferait tout pour ça. Mais en réalité, ça suffirait pas. D'ailleurs, l'intégralité des gens qui habitent à Rouen ne sont pas payés par la ville. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'autres villes que Rouen en France et dans le monde. Et donc, en fait, cette augmentation des salaires et cet accès pour tout le monde à un travail, ça va nécessairement, et c'est ça qu'on dit, c'est que ça va nécessairement passer par une lutte de l'ensemble des travailleurs et des gens qui sont privés de travail, ça passera pas par des élections, par le fait de nous élire à ces places-là. Nous, on veut pas être véhicule d'illusion qui aille dans ce sens-là, de dire si moi, demain, je suis maire, chaque Rouennais aura un travail et sera payé 2000 euros. C'est complètement impossible, mais pas parce que c'est impossible que chaque Rouennais ait un travail et soit payé 2000 euros. Ça, c'est possible. C'est impossible que moi, je le fasse dans mon petit fauteuil, etc., en appuyant sur des boutons. Ça n'existe pas. Et les politiciens qui disent le contraire sont des menteurs. Mais ceux qui disent que c'est pas possible de payer tout le monde 2000 euros et d'avoir un travail sont encore plus des menteurs. Donc ça, faut quand même être sincère là-dessus. La vérité, c'est que le seul moyen d'arracher ça, ce sera la lutte. Et donc c'est ça vraiment que nous, on veut défendre fondamentalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on se bat au quotidien.
Et Inès, une question pour vous.
Oui, j'avais une question qui n'était pas prévue, mais je vous entendais un peu dans vos réponses quand on est un peu sur les propositions. Vous dites « nous ». C'est vrai que parfois, on peut être habitué à dire « en tant que maire ou future maire, je ferai cela ». Mais vous, vous êtes un peu plus dans le « nous ». Je voulais savoir un peu ce choix-là de toujours dire « nous, maire de Rouen ». Il y a un peu cette notion de collectif que vous essayez un peu de dire.
Oui, c'est vrai. Bon, je pense que je le fais en grande partie sans m'en rendre compte, mais parce qu'en fait, la question, je pense qu'elle est vraiment pas de savoir si moi, individuellement, à Maury Renault, je pense forcément ça et tout. Enfin, d'ailleurs, moi, je le pense profondément, mais je veux dire, ce n'est pas l'émanation de ma stricte petite pensée individuelle. Et en fait, beaucoup de politiciens qui disent je, c'est aussi parce que c'est probablement en grande partie des carriéristes qui cherchent une petite place à se trouver, voilà, en tant que maire, en tant que conseiller, en tant que machin. Il y a tout un tas de postes à pourvoir dans la grande bureaucratie de l'État et cherchent toutes ces places-là pour se planquer, pour servir leurs amis qui sont aux commandes des grandes industries, et donc ils disent je, et ils s'inventent tous une petite nouveauté à leur programme qui justifierait qu'ils seraient le nouveau sauveur et qu'il faudrait les élire parce qu'ils ont eu telle idée brillante. Bon, bah c'est vrai que nous on pense que ça c'est absolument faux et que c'est des mensonges, et qu'en fait il n'y a pas tellement moi à Maury et je serais si différent de tel autre et tout. C'est qu'en fait nous on défend une perspective qui est une perspective de classe, qui est une perspective pour les travailleuses et les travailleurs. Et donc, en fait, je dis nous, en fait, les communistes et révolutionnaires, nous, c'est ça qu'on défend comme idée pour la société. Et c'est vrai que ça change un peu peut-être du jeu.
C'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit la différence avec d'autres partis politiques où vous vivez vos propos comme un collectif. C'est-à-dire que on peut utiliser ce terme-là, même si je ne fais pas forcément partie de votre mouvement, mais c'est pas le débat. Mais le mot camarade pour vous signifie quelque chose. C'est-à-dire que quand vous parlez au nom de votre collectif et pas juste moi, Amaury, je me présente parce que je dois être tête de liste et c'est moi qui serai le maire. Donc on voit qu'en fait, vous n'êtes pas là pour faire de la politique spectacle ou juste pour obtenir un mandat. C'est vous présenter pour proposer des idées de fond.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai, vous utilisiez ce terme de camarade, mais c'est vrai qu'il recouvre quelque chose. Il recouvre une envie de lutter collectivement, de se battre en fait pour arracher des choses, pour combattre ce système, et pas une logique de oui, je collabore avec un tel pour essayer de gratter telle nouvelle place, etc. Et en fait, on se tirerait des coups dans le dos après parce qu'on fait des manœuvres politiciennes. Nous, c'est vraiment ça, oui, une logique de camaraderie qui est une camaraderie qui est une camaraderie de lutte et une camaraderie de classe qui est l'union en fait le plus possible entre l'ensemble des travailleuses et des travailleurs et de tous ceux en fait qui sont précarisés dans cette société, les jeunes qui sont destinés à la guerre, les migrants qui arrivent, etc., et qui se retrouvent opposés à leurs ennemis fondamentaux qui sont en fait les grands patrons du CAC 40 et les politiciens à leur service, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous exploiter et de trouver le meilleur moyen de le faire, que ce soit par la violence la plus crasse comme l'extrême droite, ou que ce soit par des méthodes un peu plus insidieuses, plus enrobées comme les partis sociodémocrates comme le PS, quoi.
Amaury, pour terminer sur cette thématique du logement et de la parentalité, comment lutter contre la discrimination quand une famille, une personne issue des quartiers souhaiterait louer un logement au centre-ville ?
En fait, probablement que le meilleur moyen de lutter contre la discrimination, il est de retirer leur droit à décider qui a un logement à ceux qui possèdent les logements. En fait, aujourd'hui, dans la majorité des cas, ceux qui décident à qui on attribue un logement, c'est le propriétaire du logement ou bien l'agence qui est chargée de la gestion du dit logement. En fait, eux, ils appliquent du coup une discrimination qui est plus ou moins dissimulée, etc. Parce qu'en fait, ils voient le nom du dossier, parce que machin et tout. En fait, ces gens ne devraient pas avoir le droit de décider qui occupe tel ou tel logement. Déjà qu'ils ont le droit d'en fixer le loyer, ce qui est strictement indécent et ce pourquoi nous on se bat, ils devraient pas du tout avoir à fixer les loyers des logements, mais en fait ils devraient même pas avoir leur œil à jeter dans les locations. D'ailleurs, ils devraient même pas avoir le droit de posséder ces parcs immobiliers absolument gigantesques qui louent à des prix absolument indécents. Donc à partir de là, c'est clair que ça va quand même mettre un sacré plomb dans l'aile de la discrimination.
En tout cas, merci d'avoir répondu sur cette thématique. Je vais proposer à Inès de nous faire la présentation de la chanson.
Alors oui, le titre c'est Paul Dance et moi j'avais une première question. Pourquoi ce choix de goût musical? On le pose souvent un peu aux candidats et aux candidates. Est-ce qu'il y a une idée derrière ou est-ce que c'est pour le plaisir d'écouter cette musique?
Bonne question. Non, mais je pense que bon, il y a du plaisir d'écouter cette musique qui est assez entraînante et tout. Mais non, je pense que le fond de la musique a un peu de sens à mon avis politiquement. Je sais pas si, enfin voilà, qui parle de la question de la destruction du monde financier et de l'ironie dans laquelle ils vivent un peu. Et donc, je pense que ça fait toujours un peu du bien à écouter et que ça remotive un peu des fois, quoi.
Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse écouter le choix musical que vous avez décidé et on revient dans quelques instants. De retour sur le mix des cultures et sur votre émission La Voix des Municipales avec toujours vous, Amaury Renaud, et puis toi, Naïm. Et là, on est sur d'autres thématiques.
Effectivement, Inès, maintenant, on va passer à la jeunesse et à l'école. Comment financer, par exemple, la gratuité de la cotine, la gratuité de du service proposé aux écoliers, parce que vous savez qu'on croit que les écoles, c'est la mairie qui est en charge, le collège, c'est le département, et les lycées, c'est la région. Mais bon, j'ai envie de dire, les deux autres ne comptent pas pour l'instant pour cette élection. Mais justement, à l'école, on sait très bien mais qu'il y a la cantine. Dans les quartiers populaires, bah, des fois, il y a des personnes qui peuvent financer la cantine et d'autres pas. Donc, comment justement aider les familles à financer la cantine dans les écoles?
Ok, là, c'est beaucoup plus clair. Non, mais c'est vrai que la question de l'alimentation, mais pour tout un tas de familles précaires, c'est compliqué. En plus, on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants, en fait, le repas qu'ils vont avoir à la cantine, des fois, c'est un peu le seul repas complet qu'ils ont de la journée, tellement ils vivent dans des familles précaires et que c'est un vrai problème. Évidemment que la cantine devrait être prise en charge dans des écoles. Par ailleurs, cette prise en charge, ça devrait pas être, en fait, le fait de payer des fois avec beaucoup d'argent public des fortunes à des entreprises de fabrication agroalimentaire qui font payer très cher, en fait, des repas individuels pour des enfants. Parce que pareil, eux-mêmes, ils font, on en parlait tout à l'heure sur la garde d'enfants, mais